CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Le MAG du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui à l'anniversaire de l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés. L'association AMAR fête ses 30 ans. On en parle avec Sylvie Bernadet, qui en est la directrice. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour souffler les bougies, en quelque sorte, sur CFM Radio. Et puis Marie-Ange Dilis, membre du conseil d'administration d'AMAR. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Vous allez nous expliquer, vous nous réexpliquer ce qu'est l'association AMAR, son fonctionnement, comment ça marche et depuis 30 ans, quelles ont été d'ailleurs les évolutions, quelle est la place de cette association à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne et puis plus largement dans le paysage français, à quoi ça sert. Et puis on égrènera ensemble peut-être aussi le programme de ces 30 ans, je sais jusqu'au 17 juin qu'il va y avoir différentes manifestations pour rappeler à tout le monde que vous avez 30 ans. Un petit peu de musique et on commence notre conversation avec Sylvie Bernadet et Marie-Ange Dilis.
C'est fait, le MAG.
Bébé comme un enfant qu'on déguise, tu pleures et pleures encore. La rigueur est de mise, un souffle au cœur encore. Oh, j'aime pas quand tu files, quand tu t'habilles en 4 secondes. Retourne le vinyle, éteins ta dernière blonde. C'est comme une signature agrafée dans le dos, cicatrice et morsure. Tiens, les clés de la Punto, l'amour est dans le coffre. Y'a mon disque de Renault. Tiens, d'ailleurs, je te l'offre.
Centre AMAR fête donc ses 30 ans. Sylvie Bernadet, Marie-Ange Dilis sont avec nous dans les studios de CFM Montauban pour parler de cet événement. On va reprendre les choses à leur base. Qu'est-ce que c'est l'association montalbanaise d'aide aux réfugiés, même si tout est déjà dans le titre de l'association, Marie-Ange Dilis?
Eh bien oui, comme vous venez de le dire, donc c'est l'accueil des réfugiés, mais aussi l'accueil des demandeurs d'asile. Donc cette association est installée depuis 30 ans. C'était, alors moi j'y étais au début, hein, donc voilà, je peux en dire
donc
quelques mots.
Vous soufflez juste... réellement les 30 ans du coup, vous.
Quasiment, pas tout à fait, mais quasiment. Disons que c'était une période, on va dire, faste, parce que les personnes étaient accueillies pendant 6 mois, qu'elles soient réfugiées ou demandeurs d'asile. Elles avaient 520 heures de cours de français, elles avaient accès au travail. Et à l'époque, on travaillait beaucoup avec la chambre d'agriculture, avec les agriculteurs, parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Et pour les personnes, elles travaillaient donc souvent en agriculture, et ça leur permettait d'avoir des droits et d'accès à la formation. Autrement dit, on était vraiment dans une vraie démarche d'intégration et d'insertion.
Et ça, avant d'avoir le statut de demandeur de
absolument. C'est-à-dire que
de réfugié politique ou pas, hein, c'est ça.
Il y avait pas de critères pour avoir le droit aux outils pour s'intégrer. Et l'outil essentiel, c'est bien l'apprentissage de la langue française. D'ailleurs, après, certains, parce que la plupart des réfugiés qui viennent, ce sont des gens qui ont des moyens, parce qu'il faut avoir les moyens de payer les passeurs, de rester plusieurs mois en traversée de territoire. Beaucoup avaient fait des études, et donc c'était pertinent et enfin très important pour eux d'apprendre la langue française. Il y avait aussi, alors les personnes qu'on a accueillies au début, il y avait encore, je crois, des Cambodgiens, des Vietnamiens. Il y avait surtout des Vietnamiens qui aujourd'hui ont des restaurants, sont très bien installés, les enfants font des études. Il y a eu des Chaldéens. Les Chaldéens, c'était les chrétiens. Ce sont des chrétiens qui étaient dans l'est de la Turquie. On a eu quelques nouvelles. Il y en a qui ont des entreprises. Ils travaillent beaucoup dans le textile. Alors certains sont exilés à Paris pour le coup. Mmh. Mais voilà, ou des restaurants. Après, il y a eu les Kurdes. Lesquels Kurdes sont aussi bien intégrés, souvent dans le bâtiment. D'ailleurs, il y a eu un article il y a quelque temps de quelqu'un qui est passé à Mar et qui lutte contre Daesh aujourd'hui. Il y a eu un article qui est paru dans la Dépêche, je crois, il y a 2 ans, et qui est reparti au Kurdistan pour lutter contre Daesh.
Est-ce que à la création de l'association Amar correspondait à une demande de l'État français de mettre ce dispositif entre les mains du monde associatif?
Oui, donc c'est à l'époque, il y avait une association qui gérait l'ensemble du dispositif, qui était France Terre d'Asile, et il y avait une cohérence de territoire, parce qu'il y avait un interlocuteur avec l'État. Et nous, si on s'est installé, je dis nous, parce que même si je ne suis pas membre fondateur, je faisais partie de l'équipe créatrice d'Amar, c'était parce que il y avait du travail, et puis on venait d'un centre où les gens étaient accueillis en collectif. Et Amar a été le premier centre en France à faire de l'hébergement éclaté. C'est-à-dire que les familles, elles étaient hébergées comme tout à chacun dans la ville, dans des appartements. Et l'objectif aussi d'Amar, c'était, et c'est toujours vrai aujourd'hui, d'apprendre à vivre dans des apparts. Parce que c'est vrai que si on vient d'Afrique, on n'a pas forcément l'habitude de gérer le compteur d'électricité ou parce que voilà, on en a peut-être.
Et puis on est intégré dans la ville quand même.
Et on est intégré dans la ville. Et ça, c'était vraiment le souci, c'était être intégré dans la ville, apprendre à vivre en appartement. Et puis aussi avoir accès à un travail, puisqu'on travaillait, je vous dis, avec la chambre d'agriculture et les agriculteurs et les
D'accord.
gens travaillaient.
Ça, c'était pendant combien de temps ça remonte à quand, le fait de ne plus pouvoir travailler tant qu'on n'a pas ses papiers?
C'est les années 90, ouais. 91. Ouais, 91, donc ça a été très très rapide, et ça, je crois que c'est... C'est dramatique.
Est-ce que quelle différence il y a entre l'association Amar et un CADA? Est-ce que vous pouvez expliquer la nuance?
Alors, l'association Amar, c'est la structure gestionnaire. C'est D'accord. une association loi 1901. Et puis, disons qu'à l'époque, on gérait donc un CPH, Centre Provisoire d'Hébergement. Et aujourd'hui, il y a 2 structures, le Centre Provisoire d'Hébergement et le CADA. Puis je vais laisser Sylvie...
D'accord.
Expliquer.
Alors, mais s'il vous plaît, oui, si vous pouviez, Madame la directrice, nous expliquer un petit peu l'architecture en fait de l'association. Alors, et ses outils. Bien dans le micro.
Voilà. Vous venez de parler des deux établissements que l'on gère, donc le centre provisoire d'hébergement qui actuellement accueille 33 personnes, est agréé pour 33 places, est réservé à des réfugiés qui ont le statut.
D'accord, qui est situé à Montauban.
Il est situé à Montauban et nous avons 7 appartements en éclaté sur la ville de Montauban pour accueillir ces familles. Le CADA, qui est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, actuellement nous avons 114 places, toujours sur Montauban, un appartement éclaté. Donc lui est réservé aux demandeurs d'asile qui sont en attente d'une protection délivrée soit par l'OFPRA, soit par la Cour nationale du droit d'asile. Donc actuellement, nous avons l'ensemble de nos places complètes. Nous gérons 32 appartements sur Montauban. L'équipe est composée de 16 salariés. Et nous avons un budget équivalent à 1,2 million, qui est versé par une dotation globale de financement par le ministère de l'Intérieur sur la partie asile et par le ministère de la Cohésion sociale sur la partie intégration des réfugiés.
Voilà qui est clairement présenté. Un petit peu de publicité, puis on revient dans un instant avec Sylvie Bernadet, directrice de l'association Amar et Marie-Ange Dillis du conseil d'administration.
CFM à Moissac, 90.7.
Rugby Pro D2, vendredi 20 janvier à 20h, l'US Montauban reçoit Angoulême. Amateur de beaux jeux, c'est à Sapiac que ça se passe. Rendez-vous vendredi 20 janvier à 20h. Dès maintenant, réservez vos places et retrouvez l'actu du club sur www.usmsapiac.fr. Rendez-vous vendredi 20 janvier à 20h. L'US Montauban reçoit Angoulême.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
Le dimanche 22 janvier dans votre cap cinéma de Montauban, venez découvrir du cirque sur la scène avec la petite fille au ballon. Au-delà des prouesses visuelles, Lunamo et Flavia emportent le public au cœur d'une véritable histoire féerique. En alliant subtilement jonglerie, cerceau et tissu aérien, grande illusion, acrobatie et comédie. Le tout mis en valeur par un cadre théâtral, un beau spectacle à découvrir en famille dans votre cap cinéma de Montauban. La petite fille au ballon, le 22 janvier dès 16h, avec un petit goûter offert aux enfants. Tarif 16€ pour les adultes et 12€ pour les moins de 14 ans.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Vous êtes bien sur CFM, le mag du Tarn-et-Garonne s'intéresse aux 30 ans de l'association Amar. Alors on parle beaucoup des réfugiés dans tous les médias depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois maintenant, de trop nombreux mois. Et il y a quelque chose peut-être qui a changé depuis tous ces événements dramatiques qui s'égrènent partout dans le monde et jusque sur le territoire français. C'est peut-être la façon qu'ont les citoyens de regarder l'étranger, de regarder le réfugié et parfois de le regarder ou de mal le traiter de plus en plus ouvertement. Est-ce que vous ressentez ça au sein de votre structure, au sein de l'association Amar?
Bah, au sein de l'association Amar, non, puisqu'on défend le droit d'asile et puis on appartient aussi à un collectif sur le territoire. Et je crois qu'on peut se réjouir du nombre de personnes qui se mobilisent justement pour le droit... pour l'accueil des réfugiés et le droit aux personnes de venir sur le territoire. Alors, je pense que les médias, alors pas toutes, mais je pense que les médias, ils sont pour beaucoup aussi. Enfin, je veux dire...
Mais vous le ressentez quand même
Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas vraiment au quotidien. Je suis plus dans le côté militantisme. C'est vrai que les voisins, on a un travail à faire et un travail d'éducation et d'explication à faire. Et dire par exemple que la Turquie elle accueille 2,5 millions réfugiés, le Pakistan en accueille 1,6 million, le Liban qui est un tout petit pays en accueille 1 million, l'Iran 979 000, l'Éthiopie 736 000, je crois que
et nous
65 000
seulement.
Oui.
Mais alors pourquoi tout le monde s'émeut à ce point-là, dites-moi, c'est juste parce qu'on est en période électorale Sylvie Bernadet, je vous vois opiner du chef, ouais.
Alors, nous, au quotidien, on se régale dans le travail qu'on fait et on n'a pas forcément connaissance de manifestations particulières qui seraient nocives ou néfastes à l'accueil de ces publics-là.
Pas plus d'hostilité
qu'avant. Et par contre, on a nos publics à nous qui sont mobilisés pour leur intégration. Et eux, ils disent, nous, on a simplement besoin d'installer nos familles, de vivre en paix. Et c'est tout. Voilà. Donc, à partir de là, notre quotidien aujourd'hui, il n'a pas vraiment bougé, si ce n'est en quantité, puisqu'on nous a demandé d'étendre notre nombre de places. On est passé de 30 places à l'époque à la création du CADA, à 88, puis 114. Donc, il y a quand même aussi une volonté de l'État de faire un effort sur le nombre de personnes accueillies. Et ça, on peut effectivement le regarder de façon très salutaire depuis 3 ans, quoi. Ça, c'est clair. Concernant après les manifestations d'hostilité, honnêtement, dans le quotidien, nous n'en avons pas. Après, c'est plus en termes de politique générale ou de politique d'intégration où des fois il y a des freins. Nous avons eu des freins sur la scolarisation des enfants ici sur Montauban. Mais après avoir pu rencontrer Madame le maire, on a pu effectivement expliquer la force qu'avait d'intégration le système scolaire. Et ça s'est rétabli avec l'intervention du défenseur des droits. Mais voilà, donc d'hostilité, on n'en a vraiment pas. Après, je pense que c'est effectivement une question politique beaucoup plus large. Et qu'à chaque fois en campagne électorale, ça revient. Mais vraiment, nous, on est vraiment sur une posture d'échange très fraternelle et plutôt de personnes qui viennent vers nous en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà.
Alors, il y a 30 ans, il y avait des cours de français dispensés à tous ces demandeurs d'asile. Aujourd'hui, quels sont, je sais pas, est-ce qu'il y a des cours, quelles sont les actions que mène l'association Amar, autre que l'hébergement? On a bien compris qu'il y avait un gros pavé là, à cet endroit-là.
Amar ne dispense plus de cours, mais elle oriente les réfugiés statutaires ou non vers des structures, des organismes de formation sur le territoire.
D'accord.
Sur le territoire, enfin, à Montauban.
Alors, le gros du travail, il est sur l'accompagnement social et l'accompagnement juridique. Donc, l'accompagnement juridique est en lien avec la demande de protection. Donc, nous avons dans l'équipe du personnel formé, du personnel juridique, qui accompagne les personnes à élaborer leur dossier de demande de protection auprès de l'OFPRA. Et si l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, détermine que le dossier est rejeté, la personne peut faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc, on accompagne cette procédure. Donc, au niveau de l'équipe, on a les compétences pour faire ça. Et on a un accompagnement social assez large, qui est surtout centré sur la santé. On a beaucoup de personnes qui arrivent de pays où les systèmes de santé n'existent plus ou sont très dégradés. Et donc, on a un gros accompagnement à faire lié à la santé, à l'accompagnement psychologique, puisque beaucoup de personnes ont vécu des persécutions réelles dans leur pays. Et ça, il faut le soutenir aussi pour pouvoir se réhabiliter, rester debout et reprendre une vie normale sur le territoire français. Il y a la scolarisation des enfants. Et puis ensuite, il y a l'accès à un certain nombre d'outils sur le territoire. Donc beaucoup de personnes, comme elles ne peuvent pas travailler, nous demandent de pouvoir faire du bénévolat, participer à des ateliers. On a une convention avec Culture du Cœur. Voilà.
D'accord. Un petit peu de musique. Et puis on revient en conversation avec Sylvie Bernadet et Marie-Ange Delis de Lamar.
Is the daytime to forget comes? Leave far away, another day comes. If there's no face, no all the way we see life. If there's no face. Let's try.
Des directrices de l'association Amar. Qu'est-ce qui qualifie un réfugié politique dans le droit français? Qu'est-ce qui fait qu'on lui donne finalement son statut de réfugié politique ou pas?
La France a ratifié les conventions de Genève, donc ça date de juillet 51. Et alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière, puisque il y a 30 ans, 80% des personnes qui demandaient l'asile avaient la reconnaissance à 80% de leur statut. Aujourd'hui, c'est inversé. On n'a plus que 25%. Donc, il faut vraiment que la personne arrive à faire la preuve des persécutions réelles dont elle fait l'objet et pas forcément son groupe d'appartenance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ciblé sur la personne et c'est pour ça que l'accompagnement juridique de la situation de la personne est très important.
D'accord. Marie-Ange ?
Oui, alors ce qui est important aussi d'expliquer, c'est les causes, pourquoi les personnes fuient. Et l'objet aussi de ces 30 ans, enfin il y a des conférences qui sont prévues, c'est vraiment de comprendre pourquoi les personnes fuient. Enfin je veux dire, on ne quitte pas son pays, sa famille, on ne prend pas des risques très grands, parce qu'on peut risquer sa vie pour partir. Si on part, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc l'objet de notre programme des 30 ans, c'est aussi, vous parliez tout à l'heure de l'hostilité, je crois qu'on a vraiment un travail d'information par rapport aux causes. Alors, c'est vrai que la Syrie, on comprend bien, puisque, je veux dire, les gens sont sous les bombes et subissent des persécutions terribles. Mais il y a aussi des Africains qui viennent parce qu'il y a des guerres. Les migrants et les réfugiés. Alors, c'est vrai que nous, on est réfugiés, mais il faut se poser la question aussi des échanges économiques et qui causent vraiment des gros problèmes. Enfin, je veux dire, Aminata Traoré, elle explique bien que la logique économique qui met l'Afrique à genoux secrète la pauvreté, la précarité et forcément le mécontentement dans les pays riches. Il y a énormément d'entreprises, de multinationales qui pillent l'Afrique aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui des gens partent, des gens fuient.
Mais les réfugiés économiques ne sont pas acceptés sur notre territoire comme...
C'est toute la problématique. Après, ça pourrait être un débat. Qu'est-ce qu'un réfugié? Alors, selon la Convention de Genève et ce... Pourquoi nous, on œuvre, bien sûr, on est dans ce cadre-là, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question des enjeux économiques et des enjeux stratégiques.
Et climatiques aujourd'hui.
Et climatique aujourd'hui. J'allais dire demain, mais non, ça y est, on y est. Alors, ben, réfléchir, ça va être l'occasion, hein, puisque vous fêtez à l'occasion des 30 ans, vous organisez des conférences. La prochaine, d'ailleurs, aura lieu le jeudi 2 février à l'ancien collège. Ce sera une conférence de Dominique Vidal. Proche-Orient, pourquoi tant de guerres ? Qui est Dominique Vidal ? Marie-Ange.
Alors, Dominique Vidal est un historien, c'est aussi un essayiste et un journaliste. Il écrit souvent dans le monde diplomatique, mais aussi dans d'autres journaux.
Et donc ça, ce sera à l'ancien collège.
À l'ancien collège, oui.
L'entrée est gratuite. Ce sera le jeudi 2 février à 20h30. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le 10 mars, on va faire un saut au 10 mars, 19h30 à la Maison du Peuple, une soirée théâtre. Femmes et exil. Et là, c'est en partenariat avec la commission culture de la CGT 82. Ouais. Et puis, le 22 avril, ce sera à la Muse. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Un court-métrage « Nulle part en France » de Yolande Moreau. C'est ça ? Et c'est donc... elle a passé 10 jours dans la jungle de Calais, c'est ça ?
Oui.
Ça, ce sera le 22 avril, à noter dans vos agendas. Il y aura, ce sera à 18h30 ce court-métrage, à 19h il y aura une restauration sur place, et puis à 20h30, ce jour-là, il y aura le court-métrage Les Migrants, c'est un ciné-concert, un Chaplin de 1917, dites donc.
100 ans après, la même problématique.
Et oui, un groupe d'émigrants vogue vers l'Amérique sur un paquebot surpeuplé, c'est un film muet en noir et blanc, accompagné par un pianiste. Tiens, je connais pas ce Chaplin-là. Ah non.
En fait, on a une première programmation de 6 mois. Donc, on a démarré la semaine dernière, 13 janvier. 17 juin, c'est vraiment le jour, date d'anniversaire de création de l'association. Donc là, on fera une journée portes ouvertes. Et on a une programmation qui, en fait, va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Mais comme on n'a pas terminé la programmation, celle de septembre à décembre n'est pas encore déterminée. Donc voilà, on a décidé d'une rencontre par mois, une rencontre conférence, théâtre, cinéma et rencontre avec les résidents que nous accueillons, puisqu'on est en train de travailler avec eux sur une expo témoignage.
Eh ben donc on sera content à CFM de s'en faire l'écho à chaque fois qu'il y aura une de ces manifestations pour fêter ses 30 ans. Et puis j'étais ravi de vous accueillir aujourd'hui pour en parler sur CFM Radio. Merci Marie-Ange Dilis.
Merci Rémi.
Merci Sylvie Bernadet.
Merci, à bientôt.
À bientôt. À bientôt.